vous allez suivre une conférence de l'Agora des Savoirs, une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création d'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Du 3 novembre au 8 juin, les mercredis à 20h30, salle Rabelais. La ville de Montpellier propose une trentaine de conférences destinées au grand public.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Avec quoi est-ce que nous pouvons nous connaître, sinon avec notre propre connaissance?
Ce mercredi 11 mai à 20h30, enjeux éthiques, sociaux et politiques liés au développement de la biologie. Les nouvelles représentations du vivant et l'explosion des biotechnologies ont créé des problèmes éthiques radicalement nouveaux sur la légitimité de leurs applications. Mais le biologiste et philosophe Henri Atlan nous expliquera qu'il existe d'autres enjeux, ceux liés aux interactions difficiles, bien qu'indispensables, entre les trois pouvoirs de la parole, la scientifique, la politique et la médiatique.
Bien, je vous remercie beaucoup pour cette présentation, qui est un petit peu romancée quand même, dans la mesure où... Mes travaux sur l'auto-organisation ont été déterminés, en effet, comme tout le reste, mais par l'évolution de la biologie moléculaire dans les années 60 et par le fait que nous étions une minorité à l'époque de biologistes qui n'étions pas satisfaits par le dogme dominant qui s'exprimait, pour aller vite, dans la métaphore du programme génétique, mais qui n'était plus perçue comme une métaphore, contrairement à ce qu'elle avait été par ses premiers auteurs. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions réfléchi, avec d'autres d'ailleurs, avec des physiciens comme Ilya Prigogine, un cybernéticien comme Heinz von Forster, un chimiste comme Manfred Eigen. Nous avons évidemment mon collègue et patron Aaron Kaczalski de l'Institut Weizmann, nous avons réfléchi à des modèles d'auto-organisation justement, qui permettaient d'éviter de faire appel à cette notion quand même qui reste encore très anthropomorphique d'un programme qui serait écrit dans les séquences des ADN, des gènes, à la façon d'un programme d'ordinateur. Bon, aujourd'hui, 30 ou 40 ans plus tard, bon, cette critique-là, elle est pratiquement admise maintenant par presque tous, disons, presque tous les biologistes actuels, sous l'effet tout simplement de l'évolution de la biologie. Mais ce n'est pas de ça qu'on m'avait demandé de vous parler ce soir, non plus que d'ailleurs de la question du libre-arbitre, je veux bien en parler si vous voulez à la fin. On m'a demandé de vous parler donc des problèmes d'éthique posés par la biologie actuelle, quoi. Alors, au début du XXe siècle, la confiance en la science comme moyen de résoudre tous les problèmes humains était quasiment totale. Parce que du progrès des sciences et des techniques, eh bien, on imaginait que ne pouvaient sortir que des bienfaits pour l'humanité. Et les choses ont commencé à changer à peu près à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec l'explosion des bombes atomiques, où tout à coup on a réalisé que les grandes acquisitions les plus spectaculaires de la physique nucléaire, eh bien, pouvaient aussi produire des destructions inimaginables autrefois. Vous savez que cette discussion sur les bienfaits ou les méfaits et les méfaits de la physique nucléaire, eh bien, se poursuivent encore aujourd'hui. Mais en gros, si vous voulez, les termes de ces problèmes-là étaient et sont encore relativement simples, même s'il n'y a pas de solution toute faite. Et surtout de solution valable dans toutes les situations. On verra que probablement toutes ces questions-là, on gagne à les aborder au cas par cas. Par contre, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées avec les progrès de la biologie. Parce qu'on touche ici à notre être même en tant qu'être vivant, et en tant qu'être vivant en plus appartenant à une espèce particulière qui est l'espèce humaine. Alors, le XXe siècle a été témoin donc d'une accélération tout à fait extraordinaire des sciences et des techniques, et en particulier de la biologie, accélération qui ouvre des horizons de plus en plus insoupçonnés, mais en fait, quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que ces choses tout à fait extraordinaires qu'on voit arriver avec un rythme très 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 soutenu de la biologie et des biotechnologies, eh bien, ils ne sont pas totalement inconnus, dans la mesure où on en trouve déjà des expressions imaginaires, évidemment, dans la conscience des anciennes mythologies et aussi dans la science-fiction. Quoi qu'il en soit, cette accélération, eh bien, du mouvement des connaissances et des performances techniques a modifié non seulement nos conditions matérielles d'existence, mais encore et même peut-être surtout les représentations que nous nous faisons du monde, de nous-mêmes et des choses qui nous entourent. Et ce que je vais essayer de vous dire ce soir, c'est que les problèmes éthiques qui sont posés du fait de ces développements-là, eh bien, ne concernent pas seulement les applications technologiques, dans quelle mesure on peut ou on doit les appliquer ou ne pas les appliquer, etc. Mais ces problèmes éthiques concernent aussi les représentations que nous nous faisons, eh bien, de ce que nous sommes et de quoi est constitué notre environnement. Parce qu'il se trouve que des anciennes barrières sont tombées, de nouvelles frontières doivent être établies, parce que nous avons pendant longtemps distingué assez facilement les êtres animés des êtres ou choses inanimées, comme on disait, comme on dit encore toujours. Et parmi les premiers, c'est-à-dire les êtres animés, eh bien, nous avons distingué assez facilement les êtres humains conscients des animaux et des végétaux supposés ne pas l'être. Les anciennes classifications ont perdu leur pertinence et des distinctions qu'on croyait bien établies, des limites que l'on croyait infranchissables, par exemple entre le non-vivant et le vivant, ou entre le non-humain et l'humain, eh bien, sont supprimés ou même déplacés sous l'effet tout simplement des découvertes, des mécanismes par lesquels eh bien, les êtres vivants se développent, fonctionnent, se reproduisent, etc. En fait, on sent là qu'il y a une grande confusion qui est entretenue par un va-et-vient entre des notions relativement récentes qui sont produites par les sciences biologiques, notions telles que celles de gènes, de cellules, l'évolution génératrice d'espèces animales, dont l'espèce humaine, et puis des notions plus anciennes, traditionnelles, qui ne les recouvrent pas, telles que vie, embryon, conscience, humanité. Les définitions anciennes ne sont plus pertinentes, mais pourtant, elles continuent à fonctionner dans le grand public et même dans la vie quotidienne, si l'on peut dire, des chercheurs eux-mêmes, d'où cette contradiction dont parlait tout à l'heure Madame Agege. Les définitions nouvelles sont évolutives et en outre elles sont problématiques parce qu'elles dépendent de l'état des connaissances qui se modifie sans cesse. Par exemple, la notion de vie elle-même a changé de statut. Un des premiers biochimistes au XXe siècle, Saint Giorgi, déclarait de façon provocatrice « La vie n'existe pas. Je l'ai cherchée dans mon laboratoire et je ne l'ai jamais trouvée. » François Jacob, un peu plus tard, a dit quelque chose qui ressemble beaucoup à ça, de façon moins provocatrice, en disant « On n'interroge plus la vie dans les laboratoires. C'est aux algorithmes du vivant que l'on s'intéresse désormais. » Ça ne veut pas dire que Saint Giorgi et François Jacob pensaient qu'ils n'étaient pas vivants et que ce serait la même chose pour eux et pour leur environnement de mourir. Simplement, ils voulaient dire que la vie n'est plus un objet de recherche scientifique parce qu'elle n'explique rien. C'est un petit peu de la même façon que l'âme qui a disparu en tant qu'objet scientifique de la psychologie. Aucun psychologue aujourd'hui ne s'occupe de savoir ce qu'est l'âme. Ça ne veut pas dire que la vie, avec son sens ancien, et l'âme n'existe plus dans notre existence de tous les jours, mais ce ne sont plus des objets de recherche scientifique. Ce dont on s'occupe en biologie, c'est différent. Il s'agit des propriétés des organismes qu'il faut expliquer non pas par la vie, mais par des mécanismes physiques et chimiques. Et de ce fait, un écart de plus en plus grand s'est institué entre notre vie de tous les jours comme vécu de notre existence, si vous voulez, d'une part, et puis ce qu'on étudie dans les laboratoires de biologie. Biologie qu'on continue encore à appeler science de la vie, alors qu'en fait, eh bien, de plus en plus, on a tendance à utiliser la notion de science du vivant, pour exprimer par là qu'il s'agit de phénomènes à expliquer et non pas de la vie comme principe d'explication. En outre, ces phénomènes-là, cette évolution de la biologie s'est accompagnée de quelque chose de alors radicalement nouveau, à savoir que pour la première fois, la science biologique permet de faire des artefacts. Autrefois, seule la physique et la chimie permettaient de fabriquer des objets artificiels. La physique, les machines, la chimie, les objets synthétiques. La biologie était surtout une science d'observation. Eh bien, elle est aujourd'hui devenue biotechnologie en fabriquant des objets artificiels vivants. Et ceci, évidemment, introduit un trouble supplémentaire dans les représentations qu'on peut se faire de ce que nous appelons la vie ou le vivant. Fabriquer des objets artificiels vivants, c'est l'objectif explicite aujourd'hui de ce qu'on appelle la biologie de synthèse. Il s'agit en effet de synthétiser des organismes un petit peu de la même façon, évidemment c'est un peu plus compliqué, qu'on synthétise des produits chimiques artificiels, de synthèse précisément. Il existe déjà, comme vous le savez, des animaux transgéniques où un gène d'une espèce est transféré dans une autre espèce, ce qui est déjà un artefact. C'est là d'ailleurs où il faut commencer à faire attention au vocabulaire qu'on utilise, parce que certains chercheurs, emportés par l'enthousiasme devant des souris qui synthétisent des protéines humaines parce qu'on leur a transféré des gènes humains, alors parlent de ces souris-là, évidemment à tort, de souris humanisées, comme si le gène transportait avec lui une partie dont on sait quelle essence de l'homme, en oubliant qu'en fait, ce qu'on a transféré, ça n'est qu'un fragment d'ADN, c'est-à-dire un fragment de molécules parfaitement inertes. Un exemple spectaculaire qui montre comment la biologie actuelle fait éclater les définitions traditionnelles concerne la notion même d'embryon. Et ceci n'est pas sans conséquence pour le débat toujours actuel de fabrication possible de cellules souches embryonnaires par différentes techniques, en particulier par la technique dite de clonage non reproductif ou dit aussi thérapeutique. Alors se pose une question là de qu'est-ce qu'un embryon ? Alors, je ne parle pas de la question très très ancienne qui a plusieurs millénaires de savoir à partir de quand une cellule ou un groupe de cellules doit être considéré comme un être humain, par exemple, s'il s'agit d'un embryon humain. Je ne parle pas de cette question-là qui a été déjà très largement débattue, qui continue d'être débattue et qui en plus n'est pas une question biologique, parce que justement la notion de savoir à partir de quand un objet biologique devient une personne, eh bien, ça n'est pas une question biologique, puisque la notion de personne n'est pas une notion biologique. Enfin bon. Donc, je ne parle pas de cette question-là. Je parle, par contre, d'une question en amont et qui, elle, est beaucoup plus récente. C'est celle de savoir, quand on a affaire à une cellule ou à un groupe de cellules, eh bien, à partir de quand ou comment ou pourquoi appelle-t-on cela un embryon ? Cette question est tout à fait nouvelle parce que jusqu'à présent, la réponse était évidente. La réponse était eh bien, à partir de la fécondation, c'est-à-dire à partir de la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, dans le cas des mammifères en tout cas. Et on a affaire à un embryon. Bon. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, justement, il est possible, depuis la naissance de la brebis Dolly, de faire se développer un individu adulte à partir d'un ovule dont on a extrait le noyau et où on a remplacé ce noyau par le noyau d'une autre cellule adulte déjà différenciée, par exemple cellule de peau, ou en l'occurrence ici c'était de glande mammaire. Et maintenant, bon, cette technique dite de clonage reproductif eh bien, a montré qu'il était possible donc, de faire se développer un individu à partir de cette cellule artificielle, totalement artificielle. Nulle part il existe dans la nature, si vous voulez, d'ovules dont le noyau est sorti et aurait été remplacé par le noyau d'une cellule adulte. Eh bien, cet objet artificiel peut se développer et conduire à la naissance d'un individu adulte apparemment normal. Bon, cette technique, comme vous le savez, s'est développée très largement dans beaucoup d'espèces animales. Il n'est pas question pour le moment de l'appliquer à l'espèce humaine parce qu'elle n'est pas encore très, très sûre du point de vue de ses résultats. Et puis parce qu'aussi il y a d'autres questions de différentes natures, éthiques notamment, qui se posent à son propos. Bon. Le fait est qu'on a affaire là à un matériel artificiel, vivant, et qui peut se développer sous certaines conditions comme si c'était un embryon. Mais si on utilise cet ovule modifié, non pas pour l'implanter dans un utérus et le faire se développer pour devenir un adulte, mais si on utilise cet ovule modifié seulement pour le faire se développer un petit peu dans une boîte de pétri ou dans un tube à essai au laboratoire, eh bien, il peut, et ça a été fait évidemment, produire des cellules souches qui ont toutes les propriétés de cellules souches embryonnaires. Alors vous savez qu'il y a un grand débat pour savoir si on a le droit d'utiliser cette technique pour fabriquer des cellules souches embryonnaires. Et les raisons qui sont invoquées, y compris par la loi française actuelle, et c'est qu'il y aurait là une instrumentalisation d'un embryon humain qui serait contraire à la dignité humaine et que c'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas le faire. En réalité, il y a certainement instrumentalisation, mais instrumentalisation de cellules artificielles qui, à propos desquelles on n'a aucune raison de considérer qu'on a affaire à des embryons tant qu'on ne les a pas implantés dans un utérus. Le problème est encore plus radical quand on sait que maintenant il est possible de faire cette manipulation, c'est-à-dire de transférer un noyau d'une cellule adulte dans un ovule énucléé, c'est-à-dire d'où on a éliminé le noyau, d'une espèce à l'autre. Et il a été fait, et ça continue d'être fait dans certains laboratoires dans le monde, pas en France, il a été possible donc de fabriquer des cellules souches embryonnaires à partir d'une cellule fabriquée artificiellement en prenant un ovule de lapine dont on a expulsé le noyau et en remplaçant ce noyau par un noyau de cellules humaines. Et on a obtenu de cette façon eh bien, quelque chose qui est une cellule dont le cytoplasme et la membrane et tous les organelles du cytoplasme sont de lapine et dont le noyau, avec ses gènes évidemment, est d'origine humaine. Et cette cellule se développe au moins pendant quelques jours, suffisamment pour produire des lignées de cellules souches éventuellement utilisables, étant entendu que ces cellules souches-là, au bout d'un certain temps, elles-mêmes et leurs descendants ont les propriétés de cellules souches embryonnaires humaines. Alors, est-ce que cet objet-là, constitué par un ovule énucléé de lapine et un noyau adulte humain, c'est un embryon ? On voit mal, embryon de quoi ? Il est évident que bon, des expériences de ce type ont été faites avec d'autres espèces et ces objets ont été implantés dans des utérus d'une des deux espèces, en général c'était deux vaches, Et ça n'a jamais fonctionné, c'est-à-dire que l'implantation n'a jamais réussi, et évidemment, il n'y a jamais eu de développement. Il n'en reste pas moins qu'en l'absence de toute tentative même d'implantation utérine, on voit mal au nom de quoi on devrait qualifier ces objets d'embryons. Bon, on peut imaginer encore tout un tas de techniques encore plus acrobatiques pour un avenir plus ou moins lointain, qui montrent donc que il ne faut pas se contenter de définitions statiques, c'est-à-dire de définitions essentialistes qui consistent à dire, parce que cette cellule artificielle peut devenir, sous certaines conditions, et avant tout sous la condition d'implantation utérine, peut devenir un individu adulte, elle est déjà un embryon. Non, elle peut devenir un embryon, donc elle ne l'est pas. Et il faut admettre que ce qui n'est pas un embryon peut devenir un embryon, de la même façon d'ailleurs que ce qui n'est pas vivant peut devenir vivant, ce qui n'est pas humain peut devenir humain. Et une des recommandations que, en association avec une grande juriste que vous connaissez peut-être, qui est Mireille Delmas-Marty, nous avons fait à propos de cette question-là, sans beaucoup de succès jusqu'à présent, il faut dire, c'est que de considérer ces cellules artificielles qui pourraient devenir un jour, à condition d'être implantées dans des utérus des embryons, de les dénommer des pseudo-embryons. Parce que le nom des choses devient très, très, très important dans tous ces problèmes-là. La façon d'appeler, de dénommer les procédure de dénommer les objets ou les êtres qui sont en jeu, détermine le plus souvent l'attitude qu'on a, l'attitude éthique, qu'on a par rapport aux techniques qui les concernent. Alors en fait, ceci est un exemple très particulier, de cette évolution et de cet écart qui se constitue de plus en plus entre les représentations traditionnelles que nous nous faisons de ce qu'est la vie et de ce qu'est un être vivant, etc. Et puis, la réalité de ce qu'on observe maintenant dans les laboratoires. En fait, l'écart est encore est beaucoup plus profond et beaucoup plus général, parce que pendant des siècles, la vie et la pensée étaient considérées comme des propriétés de certains êtres qui étaient supposés différents de simples corps matériels. Et l'âme était ce qui faisait justement toute la différence. Et l'expression corps inanimé, c'est-à-dire sans âme, est encore utilisé pour désigner un corps non vivant. Mais en fait, nous ne pouvons plus accepter cette vision traditionnelle, donc d'une barrière absolue qui créerait une grande division entre des corps purement matériels d'un côté et puis des corps vivants et connaissants et d'un autre côté animés par une âme immatérielle. Alors cela semble évident quand on est au laboratoire. Mais ce n'est pas si facile, car précisément l'idée que nous sommes faits de l'homme en particulier depuis des siècles repose sur cette division entre un corps matériel et une âme immatérielle. Mais personne ne peut continuer à tenir cette division-là quand on est dans un laboratoire. Et il ne faut pas oublier non plus que cette conception était à l'origine d'une tradition philosophique, vitaliste et spiritualiste qui a produit évidemment une réflexion éthique importante. Et cette réflexion reste encore l'un des socles de la philosophie morale spontanée, la plus habituelle, mais elle est en porte-à-faux, pour une grande part, avec les représentations mécanistes que nous suggèrent les sciences du vivant. D'où le reproche qu'on fait souvent d'ailleurs à ces sciences de dévitaliser la vie et de déshumaniser l'homme. Car il est de fait que l'explication mécanique du monde est maintenant étendue au vivant. Et il n'est plus nécessaire d'invoquer une âme immatérielle pour comprendre les activités des corps vivants. En gros, pour nous représenter des mécanismes par lesquels ces propriétés d'être vivant émergent à partir d'interactions entre des molécules, et comment aussi, à un autre niveau, des propriétés cognitives émergent d'interactions entre des cellules, nous utilisons plusieurs modèles d'auto-organisation de la matière. Je vous signale en passant que ces modèles d'auto-organisation de la matière, qui étaient en effet les produits de quelques biologistes et biophysiciens assez minoritaires il y a 30 ou 40 ans, actuellement ont envahi littéralement toute une partie de la littérature scientifique, aussi bien d'ailleurs physico-chimique que biologique. Ces modèles nous montrent comment les propriétés globales d'un système complexe fait de beaucoup d'éléments simples sont qualitativement différents des propriétés de ces éléments pris isolément. C'est ainsi qu'un assemblage de molécules peut, dans certaines conditions, s'auto-organiser et présenter des propriétés du vivant, bien qu'aucune des molécules qui le constituent ne soit vivante. Et de même, un assemblage de cellules, notamment des neurones, peut s'auto-organiser et présenter des propriétés cognitives, bien qu'aucun des neurones ne connaisse ni ne comprenne quoi que ce soit. Et il est important de souligner que ces phénomènes d'émergence et d'auto-organisation sont mécaniques et que nous n'avons pas besoin de faire appel à des propriétés mystérieuses de la vie ou de l'esprit pour expliquer leur survenue de façon purement causale. Et de ce point de vue, d'ailleurs, cette sorte d'émergence mécanique est très différente et en fait même à l'opposé de ce qui était appelé émergence au XIXe siècle dans le cadre des théories vitalistes et des philosophies de la vie. Alors, cette conception du monde n'est pas sans conséquence pour notre compréhension de nous-mêmes. Bon, tout d'abord, elle montre clairement comment la production d'êtres vivants par la nature n'implique pas nécessairement l'existence d'un être vivant intelligent planifiant intentionnellement cette production comme un grand architecte planifiant la construction de l'univers. Et la même chose s'applique aux êtres intelligents doués de capacités cognitives. Eh bien, leur production par la nature n'a pas besoin d'un être qui serait lui-même conscient et intelligent et qui les produirait intentionnellement à son image. Autrement dit, l'argument qui revient de preuve de l'existence de Dieu sur la base de ce qu'on appelle l'argument from design, c'est-à-dire le fait que l'observation de l'organisation extraordinaire de l'univers et en particulier des êtres vivants, eh bien, fait penser que ça ne peut pas être survenu en l'absence justement d'un planificateur qui a organisé tout ça, eh bien, bon, ces modèles d'auto-organisation montrent en effet que la matière peut s'organiser elle-même. Enfin, d'autre part, considérer les êtres vivants et connaissants comme étant produits par auto-organisation de différentes parties de la nature qui sont elles-mêmes non vivantes et sans connaissance, eh bien, elle a une autre conséquence sur l'idée que nous pouvons nous faire de notre propre liberté. Donc, comme vous l'a indiqué brièvement dans l'introduction, plus nous connaissons les mécanismes de cette production, plus les êtres vivants et conscients, y compris nous-mêmes, apparaissent comme déterminés par ces mécanismes. Et la notion donc de libre arbitre semble de plus en plus problématique et même illusoire, alors qu'elle a servi de socle, encore une fois, aux philosophies morales et religieuses dominantes depuis plusieurs siècles. Et on aurait intérêt à se retourner vers des philosophies plus anciennes, comme celle des stoïciens, par exemple, ou plus près de nous, de Spinoza, pour concevoir la possibilité d'une éthique du déterminisme où une liberté différente du libre arbitre pourrait être nourrie par toujours plus de connaissances de nos déterminismes et par leur intériorisation, en effet joyeuse autant que possible, mais c'est apparemment plus difficile. En attendant, eh bien, nous avons à résoudre des problèmes de ce qu'il est convenu d'appeler bioéthique, à résoudre ces problèmes-là de façon collective, quelles que soient nos convictions philosophiques et religieuses. Tout simplement parce que ces problèmes se posent à la société dans laquelle nous vivons, ou aux sociétés au pluriel dans lesquelles nous vivons, et étant entendu que la plupart de ces sociétés sont multiculturelles. Ces problèmes dits de bioéthique, eh bien, sont mal nommés, c'est-à-dire qu'on a tort, ce mot de bioéthique s'est imposé pour des raisons de commodité journalistique par-dessus le marché, mais il induit en erreur d'une certaine mesure, dans la mesure où, quand on parle de bioéthique, eh bien, on imagine qu'il s'agit de problèmes que la biologie va résoudre. Et qu'on parle de bioéthique comme on parle de biochimie ou de biophysique, c'est-à-dire d'une sous-discipline de la biologie. Au contraire, il s'agit là exactement de l'opposé. C'est-à-dire, on peut définir très brièvement et schématiquement tout cet ensemble de réflexions qui constitue, au Comité national d'éthique, nous avions essayé de combattre cette dénomination de bioéthique. Et évidemment, nous n'avons pas réussi, parce que les médias ont été plus forts. Et nous avions proposé tout simplement d'appeler cela éthique biomédicale. Mais vous voyez, c'est moins frappant que bioéthique. Donc, bioéthique s'est imposé. On peut, en réalité, définir cet ensemble de problèmes comme des problèmes ou des questions qui sont posées par les sciences et les techniques sans que les sciences et les techniques donnent les moyens de les résoudre. Autrement dit, ce sont un exemple tout à fait spectaculaire et qui est l'un des tout premiers d'ailleurs qui se soit posé, eh bien, c'est celui de la séparation entre maternité utérine et maternité ovarienne. C'est-à-dire que pendant des milliers et des milliers, des dizaines de milliers d'années depuis qu'existent des mammifères, eh bien, ces deux fonctions maternelles étaient toujours réunies dans une seule personne humaine ou dans un seul organisme animal. C'est-à-dire que, eh bien, pour la première fois dans l'histoire de l'univers, si l'on peut dire, en tout cas de la Terre, pour la première fois, il a été possible de dissocier ces deux fonctions maternelles et de faire en sorte qu'un enfant puisse naître à partir d'un ovule produit par une femme en étant porté dans l'utérus d'une autre femme. Bon, c'est une dissociation absolument inouïe, à laquelle maintenant d'ailleurs beaucoup se sont habitués, mais qui a posé tout de suite un premier problème qui était de ces deux femmes, quelle est la mère? Et évidemment, ça n'est ni la médecine ni la biologie qui peut donner une réponse à cette question de qui est la mère, puisque d'un point de vue biologique, les deux femmes sont d'une façon ou d'une autre la mère. Donc il fallait chercher. Alors, tout cet ensemble de, on pourrait donner d'autres exemples comme cela, de problèmes qui sont créés de toutes pièces, parce que la question là n'existait pas, n'a jamais existé, sauf à partir du moment où la technique a permis cette séparation. Autrement dit, on a affaire à tout un tas de questions. L'allongement de la durée de vie aussi crée des problèmes de fin de vie, comme vous le savez, qui n'existeraient pas ou qui n'existaient pas autrefois. Alors on peut s'en féliciter dans la mesure où ça permet de vivre plus longtemps, mais comme vous le savez, de nouveaux problèmes apparaissent aussi. Autrement dit, on a affaire à toute une série de problèmes qui sont créés de toutes pièces par le développement des sciences et des techniques sans que les sciences et les techniques elles-mêmes puissent donner de réponse à ces problèmes. Alors si elles ne peuvent pas donner de réponse à ces problèmes, où est-ce qu'on va chercher les réponses à ces problèmes? Alors classiquement, comme toujours, on se tourne vers les deux sources habituelles que sont les religions et les philosophies. En réalité, on pourrait montrer assez facilement comment, alors que en fait, on apprend quand même beaucoup de ce qu'ont à dire éventuellement les religions et différentes philosophies sur comment résoudre ces problèmes, eh bien, ça ne suffit jamais. Pourquoi ça ne suffit jamais? D'abord parce que souvent la même doctrine peut conduire à des conclusions tout à fait différentes, et puis réciproquement, des doctrines complètement différentes peuvent conduire à une même conclusion, et surtout, les problèmes qui sont posés par ces techniques sont tellement nouveaux d'un côté et compliqués de l'autre qu'on ne peut pas les résoudre en déduisant des solutions à partir de grands principes. Alors ça, évidemment, ça a été la grande déception de beaucoup de comités d'éthique, y compris du nôtre en France au moins à ses débuts. Maintenant, tout le monde s'y est habitué. C'est-à-dire, on imaginait que si on posait des grands principes de morale, d'éthique, eh bien on pourrait en déduire les solutions aux problèmes concrets qui étaient posés. Mais ça ne marche pas comme ça. Et tout simplement parce que on posait la question, par exemple, en termes d'eugénisme en général, en disant telle technique, le tri d'embryon, par exemple, dans le diagnostic préimplantatoire, c'est de l'eugénisme. Eh bien non, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'eugénisme et d'autre part, qu'est-ce que c'est que cette technique particulière et les circonstances particulières dans lesquelles éventuellement elle peut être appliquée. Autrement dit, poser la question en termes très généraux comme eugénisme, ça ne marche pas. Il en est de même pour l'euthanasie. pour ou contre l'euthanasie, ça ne veut pas dire grand-chose. Encore faut-il entrer dans les détails pour savoir de quelle sorte d'euthanasie il peut s'agir et dans quelles circonstances, et ainsi de suite. Pareil pour beaucoup d'autres exemples. Le clonage humain. On dit vous êtes pour ou contre le clonage humain. Ça ne veut strictement rien dire, bien que des débats passionnés tournent autour de ça. Ce sont des débats sur des mots plutôt que sur des réalités. Tout simplement parce que le clonage humain, ben, ça ne veut rien dire. Il faut savoir de quel type de clonage il s'agit. Est-ce que c'est un clonage qui va aboutir à faire naître un individu humain ? Ou bien est-ce que c'est une technique qui au début est la même, mais qui ensuite n'est pas la même, et qui consiste tout simplement à fabriquer des cellules au laboratoire. La technique est au début identique, ensuite elle n'est plus identique, les résultats sont complètement différents. Donc la question même, au début de ce qu'on appelait autrefois des manipulations génétiques, la même confusion aussi a été introduite. On était pour ou contre les manipulations génétiques chez l'homme. Bon, à nouveau, il a fallu quelques années pour arriver à faire une distinction très nette entre manipulations génétiques, si c'est comme ça qu'on les appelle, sur des cellules somatiques ou sur des cellules germinales. C'est-à-dire sur des cellules germinales, c'est-à-dire qui sont transmises à la génération future, ou bien sur des cellules somatiques, c'est-à-dire qui constituent le reste du corps et qui ne sont pas transmises. Et qui, à ce moment-là, les modifications qu'on fait subir à ces cellules ne sont pas fondamentalement différentes de celles qu'on leur fait subir, par exemple, en faisant de la radiothérapie pour un certain nombre de cancers. Bon, donc, voilà, ces problèmes-là gagnent à être abordés au cas par cas, en entrant dans les détails des techniques et des procédures, ce qui n'empêche pas aussi de faire appel en parallèle, non seulement évidemment aux enseignements qu'on peut tirer des religions et des philosophies différentes, mais aussi à faire appel aux mythes anciens, parce que les mythologies permettent d'acquérir, alors pour le coup cette fois-ci, une certaine distance par rapport à ces techniques, mais en nous montrant que ce dont elles parlent, ces mythologies, c'est ce dont il s'agit dans la plupart des cas, parce que de quoi parlent-elles? Elles parlent de la naissance, de la mort, de la sexualité, de la filiation, et on s'aperçoit que les techniques actuelles très souvent réalisent ces imaginations ou ces fantasmes de l'humanité déjà ancienne. Par exemple, voler dans les airs, qui a réalisé le mythe de Dédale en évitant de tomber comme Icare, le mythe de l'homme artificiel, du golem en particulier, ou de Faust, la fabrication de chimères. Tout ça, ce sont des techniques qui existent déjà, soit qui sont en cours de réalisation. Le triomphe de la mort et les rêves d'immortalité, certains biologistes y croient, personnellement je n'y crois pas, on ne peut pas empêcher de rêver. Et encore une fois, il n'est pas inintéressant donc, de faire appel à ces récits imaginaires, dans la mesure où, encore une fois, ils rejoignent un petit peu souvent les réalisations de ces techniques. Alors, je voudrais, pour terminer, vous parler d'une autre catégorie de problèmes éthiques posés par les sciences et la biologie et la médecine en particulier, et qui ont à voir avec un phénomène beaucoup plus général, avec un phénomène de société beaucoup plus général, qui lui aussi s'est développé dans le cours du XXe siècle. Il se trouve qu'au début du XXe siècle, la propagande a été inventée. Et contrairement à ce que je croyais avant de m'intéresser à cette question, et contrairement à ce que beaucoup pensent, la propagande n'a pas été inventée par un régime totalitaire, c'est-à-dire par le régime nazi avec Goebbels comme fameux ministre de la propagande. La propagande a été inventée dans un régime démocratique qui est celui des États-Unis au tout début du siècle, à l'occasion de la Première Guerre mondiale, quand il s'agissait pour le gouvernement américain de convaincre son opinion d'entrer en guerre. Parce que l'opinion américaine était loin d'être convaincue de la nécessité d'entrer en guerre avec les alliés en Europe. Pour convaincre son opinion, eh bien, le gouvernement américain a fait appel à un groupe de journalistes qui a mis au point des techniques visant à convaincre l'opinion. Et parmi ces journalistes se trouvait un monsieur qui s'appelait Edward Bernays, qui avait comme particularité d'être non seulement un journaliste, mais d'être aussi un neveu de Freud. Et on ne sait pas quelle a été l'influence la plus forte. Le fait est qu'il a pris conscience là des possibilités de manipulation de l'opinion. Et c'est lui qui a créé les premiers bureaux de relations publiques, les bureaux services de communication. Il a publié un livre dans les années 20 qui s'appelait Propaganda, dans lequel il énumère tout un tas de techniques que les professionnels des relations publiques et de la communication doivent appliquer s'ils veulent être de bons professionnels. Et ce livre, eh bien, n'a rien perdu de son actualité, bien au contraire. Il s'est développé et les applications de ce livre se sont développées et ont créé, comme vous le savez, eh bien, tout un corps professionnel qu'on enseigne, y compris dans les universités, à savoir les techniques de communication. Ces techniques de communication ont comme objectif de permettre de vendre, à tous les sens du terme, soit de vendre pour de l'argent, soit de vendre au sens de faire admettre n'importe quoi. C'est-à-dire il s'agit aussi bien de vendre une marque de voiture que de faire élire un président, que de convaincre à une certaine époque les femmes de ce que fumer sera un signe de leur émancipation. Évidemment, tout cela au profit des compagnies qui fabriquaient les cigarettes, alors que les femmes pensaient en effet que c'était le signe de leur émancipation, grâce au travail très professionnel des bureaux de communication qui travaillaient pour les compagnies qui fabriquaient les cigarettes, etc. Bon, comme vous le savez, toutes ces techniques-là se sont développées, la publicité, etc. Et ne parlons même pas maintenant d'Internet, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on pensait qu'il y avait au moins un domaine qui échappait, si vous voulez, à cette multiplication de demi-mensonges. Parce que vous comprenez bien que l'objet de cette propagande, ou de cette publicité, ou de cette communication, ça n'est pas de manipuler de façon grossière, c'est-à-dire ce n'est pas de faire passer des mensonges énormes qui sont reconnus aussitôt comme étant, c'est de faire passer des demi-mensonges où il y a aussi une part de vérité, mais à partir d'un certain moment on ne sait plus quelle est la part de vérité, quelle est la part de mensonge. C'est là où évidemment on vit dans une espèce de magma. Et jusqu'à présent, un domaine d'activité semblait avoir échappé à cela, et c'était la science. Jusque dans les années 70, eh bien, aucun chercheur n'aurait osé s'approcher d'un journaliste pour lui expliquer ce qu'il était en train de faire. Il aurait été aussitôt déconsidéré, il aurait perdu toute chance de progrès dans sa carrière, etc. Tout simplement parce que, eh bien, la science était considérée comme une activité relativement élitiste, refermée sur elle-même, et qui ne devait être jugée que par des pairs. Donc un chercheur ne devait communiquer ce qu'il faisait que à ses pairs, et éventuellement être jugé par eux, et ainsi de suite. Les choses ont changé dans les années 70, justement à cause de la découverte de problèmes sociaux créés par les sciences, sans que les scientifiques eux-mêmes puissent vraiment les résoudre. Et ça a commencé d'ailleurs par la découverte des possibilités de modifier les ADN, de modifier les gènes. Et les premiers, quand les techniques d'ingénierie des gènes ont été découvertes, tout simplement, eh bien, les biologistes qui ont été à l'origine de cette découverte ont eu tellement peur qu'ils ont décidé d'un moratoire en s'interdisant de continuer ces recherches. Ce moratoire n'a duré que quelques mois. Au bout de quelques temps, eh bien, on a trouvé les moyens de se protéger contre des dangers éventuels qui risquaient de découler de ces techniques-là. Et le fait est qu'en effet, bon, toutes les catastrophes qui avaient été imaginées ne se sont pas produites. C'est-à-dire, ils avaient imaginé qu'aussitôt, il y aurait des espèces de pattes grises ou de bactéries terribles qui allaient se répandre dans la nature et tuer tout le monde. Bon, évidemment, ça ne s'est pas produit. À partir de là, eh bien, les chercheurs eux-mêmes ont pris conscience de la nécessité pour eux d'expliquer au public ce qu'ils faisaient, de rendre compte de ce qu'ils faisaient, ne serait-ce que parce que leur travail, eh bien, était nourri, subventionné évidemment par la société, et qu'il fallait donc en rendre compte. Mais à ce moment-là, eh bien, le ver était déjà dans le fruit, parce que pour en rendre compte, il fallait faire appel à qui ? Eh bien, aux journalistes. Et pas seulement aux journalistes, mais aux journalistes par l'intermédiaire des services de relations publiques et de communication, des grands laboratoires, des grands instituts de recherche, CNRS, INSERM, tous les grands laboratoires qu'on peut imaginer dans le monde, qui ont maintenant leurs services de relations publiques. Et l'objectif était et est toujours de transmettre l'information scientifique au public pour que le public puisse, au moins en démocratie, eh bien, débattre de ces questions dites de bioéthique, puisque les scientifiques eux-mêmes qui créent les problèmes ne trouvent pas dans leur propre science de façon immédiate les solutions, et que nous sommes en démocratie, eh bien, il faut transmettre en quelque sorte l'information de telle sorte que le public puisse, lui, en décider. Et avec, par l'intermédiaire éventuellement de ses représentants, c'est-à-dire de ses représentants élus. Et c'est là donc que se pose la nécessité, en effet, d'une transmission de l'information scientifique et médicale en particulier, biologique et médicale, au grand public. Et c'est là que, eh bien, ces bureaux de relations publiques sont des très bons professionnels, au sens d'Edouard Bernays, et que, de plus en plus, au lieu de simple transmission de l'information scientifique, on a affaire à de la communication. Et ça n'est pas toujours à cause d'une mauvaise volonté ou d'une mauvaise foi, ni des uns ni des autres, c'est-à-dire ni des scientifiques eux-mêmes, ni des journalistes. Bien sûr, il y a une connivence. Normalement, on devrait s'attendre à ce qu'ils se critiquent l'un l'autre. Mais malheureusement, très souvent, au contraire, ils s'utilisent l'un l'autre. C'est-à-dire que le scientifique utilise le journaliste bien pour sa notoriété et puis éventuellement pour, grâce à ça, avoir des budgets qui lui permettent de faire sa recherche. Et le journaliste utilise le scientifique, eh bien, pour faire un scoop, si vous voulez, pour annoncer le premier, une grande découverte qui va guérir le cancer de façon pratiquement certaine, bientôt, etc. Alors, le Comité national d'éthique avait, en 1995 déjà, eh bien, pris conscience de cette question et avait rédigé un rapport sur l'éthique de la transmission de l'information scientifique au public, dans lequel, eh bien, on analysait les raisons pour lesquelles, eh bien, il y avait des dérapages de plus en plus fréquents. Dérapages du genre, eh bien, voilà, telle recherche est une découverte fondamentale qui va permettre de guérir cette maladie demain ou après-demain. Ou bien telle découverte maintenant ouvre une voie qui, inéluctablement, va nous permettre de ceci et de cela, etc. Ça n'est pas nécessairement de la mauvaise foi et de la mauvaise volonté, tout simplement parce que les exigences de ces deux professions ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, l'information scientifique, la vraie information scientifique, demande du temps. En général, il s'agit de problèmes qui durent depuis très longtemps, qui se résolvent petit à petit, par des petits pas, qui ne sont pas toujours très spectaculaires chaque fois. Au contraire, l'information transmise par les médias doit être immédiate, c'est le court terme, c'est le spectaculaire, etc. Donc il y a là déjà un conflit d'intérêts. Puis évidemment, aussi bien les uns que les autres, maintenant, eh bien, sont entraînés dans la recherche du profit, puisque tout ça s'inscrit dans l'économie d'une société dans laquelle nous vivons. et où il s'agit en effet donc de tirer des profits de ce travail. Eh bien, à la suite de cela, il y a quelques années, la revue Nature a organisé une enquête sur ce que les Américains appellent le misconduct, le scientific misconduct, c'est-à-dire finalement la fraude, si vous voulez, la fraude scientifique. Alors la fraude scientifique est quelque chose qui a toujours existé, mais qui a toujours été très rare, c'est-à-dire la vraie fraude scientifique, c'est-à-dire ce qui consiste pour un chercheur, par exemple, à fabriquer des résultats faux, mais à les fabriquer de telle sorte de faire en sorte que ça apparaisse comme vrai, ou de copier, de faire des plagiats, ou bien de falsifier des résultats. Bon, ça a toujours existé, mais ça a toujours été très rare, parce que l'enjeu n'en valait pas la chandelle, c'est-à-dire c'était tellement dangereux que tout le monde savait, chaque chercheur savait que s'il faisait une chose pareille et s'il était pris, eh bien, ça en était fini de toute sa vie professionnelle. Donc, en fait, ça a été toujours extrêmement rare. Et c'est évidemment ce qu'a confirmé cette enquête de Nature. Mais cette enquête de Nature ne s'est pas arrêtée là. Elle a aussi voulu rechercher la fréquence, non pas de ces grosses fraudes scientifiques, mais de petites fraudes scientifiques. Alors, qu'est-ce que c'est que des petites fraudes scientifiques ? Eh bien, ce sont celles justement qui utilisent cette demi-vérité ou cette demi-mensonge qui circule grâce aux techniques de communication, aux techniques de propagande. Alors, par exemple, eh bien, il arrive qu'il y ait des conflits d'intérêts entre un chercheur et une compagnie dans laquelle il a des actions. Si les résultats de son travail, eh bien, contredisent les hypothèses sur lesquelles cette compagnie a été créée et par conséquent risque de faire chuter les actions, eh bien lui-même risque fort d'être tenté de ne pas publier tout simplement ses résultats. Autrement dit, c'est une rétention d'informations. On ne peut pas dire que c'est un mensonge, on ne peut pas dire que c'est une tricherie, on ne peut pas dire que c'est une fraude. Bon. Mais vous voyez que c'est déjà à la limite. Il y a aussi la façon de présenter les résultats. Alors, très souvent, on a affaire, surtout en médecine, à des résultats statistiques. Alors là, vous savez qu'il y a trois sortes de mensonges. Il y a les mensonges volontaires, les mensonges involontaires et les mensonges statistiques. C'est-à-dire les mensonges statistiques, c'est ceux qui consistent à vous dire, voilà, on a fait tel ou tel test, et voilà le résultat, il en résulte que ceci, cela. En réalité, très souvent d'ailleurs, les utilisateurs, les chercheurs eux-mêmes, biologistes, médecins, utilisateurs de tests scientifiques qui sont en général assez compliqués, ne comprennent pas vraiment comment ça marche, et les utilisent comme des outils en y croyant eux-mêmes. Alors que très souvent, en fait, les résultats de ces tests, eh bien, n'aboutissent qu'à confirmer une probabilité d'hypothèse ou, dans le meilleur des cas, rejeter une hypothèse. Bon, ça c'est bien. Mais en général, c'est pas de ça qu'il s'agit. En général, il s'agit d'une hypothèse qui est confirmée en principe par un test, alors qu'en réalité, c'est simplement une certaine probabilité qui est confirmée. Mais ça, on ne le dit pas. On dit, voilà, d'après tel ou tel test, eh bien, et on utilise le conditionnel. Alors, l'utilisation du conditionnel, évidemment, c'est magnifique, parce qu'on vous dit, les derniers résultats de tel ou tel travail montreraient que... Alors, montreraient que, on ne peut pas vous dire que vous avez dit quelque chose qui n'est pas exact, puisque c'est un conditionnel. Bon, et ainsi de suite. Donc, il y a toute une atmosphère de ce type qui est utilisée donc pour vendre des travaux scientifiques exactement de la même façon que les bureaux de communication ou bien les lobbies qui ont aussi été institués dans la suite de ce travail sur la propagande, eh bien, font admettre. Et je veux tout simplement, pour terminer, vous citer un certain nombre de cas quand même qui sont alors là assez spectaculaires concernant le travail des professionnels de la communication qui travaillent pour les grandes compagnies pharmaceutiques. Leur travail, évidemment, consiste à faire vendre des médicaments, puisqu'ils travaillent pour ces compagnies. Ces médicaments, souvent, ont, pour être mis au point par les compagnies, donc, et heureusement qu'il y a des compagnies pharmaceutiques qui fabriquent des médicaments, mais pour fabriquer ces médicaments, eh bien, ces compagnies, souvent, sont obligées d'investir des millions, sinon des centaines de millions de dollars ou d'euros pour le développement d'un certain nombre de molécules, dont seulement certaines vont pouvoir être efficaces, puis ensuite il faut qu'elles ne soient pas toxiques, et ainsi de suite. Donc finalement, quand elles arrivent à être mises sur le marché, eh bien, vous comprenez bien qu'il est normal que ces compagnies pharmaceutiques veulent essayer de rentrer dans leur fonds quand même. Et donc les compagnies de communication, eh bien, sont chargées de faire leur travail. Et à ce moment-là, eh bien, comme ce sont des professionnels qui ont des journaux professionnels et qui expliquent dans leurs journaux leur technique de travail, eh bien, on peut y lire un certain nombre de perles, dont je veux vous citer seulement l'une d'entre elles, mais qui est appliquée régulièrement, et qui consiste dans ce qu'ils appellent en anglais, donc j'ai appris moi cette expression, je suppose qu'elle n'est pas connue de tout le monde, « disease mongering », ça veut dire en français approximatif « le colportage de maladies ». Pourquoi ? Parce que l'idée était que, et elle est toujours, que la meilleure façon de faire vendre un médicament, c'est d'abord de vendre la maladie. Donc, il faut convaincre qu'on a découvert une nouvelle maladie et que cette maladie, justement, eh bien, on a découvert aussi le médicament qui va la soigner. Alors, on pourrait faire toute une liste de maladies admises aujourd'hui comme étant plus ou moins des vraies maladies. Je dis plus ou moins parce que si on gratte un peu, on s'aperçoit en effet qu'il s'agit de quelque chose qui est aussi à la limite du demi-mensonge ou de la demi-vérité. Et pour vendre la maladie, eh bien, évidemment, la technique, et il est important de bien connaître cette technique pour eux, pour ces professionnels, c'est ce qu'ils appellent un condition branding, c'est-à-dire la façon de trouver la bonne marque, le bon brand, si vous voulez, la bonne marque, c'est-à-dire la bonne dénomination de la maladie, et aussi du médicament d'ailleurs par la même occasion, c'est-à-dire qu'est-ce qui va attirer la croyance justement du public, d'abord pour croire qu'ils ont effectivement, ou elles ont effectivement ce type de maladie, et là on est en plein docteur Knock, mais enfin ça ne fait rien, là c'est parce que c'est un docteur Knock à l'échelle industrielle cette fois-ci, et donc pour réussir dans leur travail autant que possible. Alors, en fait, bon, je ne veux pas être trop pessimiste, parce qu'il y a quand même des raisons d'être au moins partiellement optimiste, à condition de reconnaître, malgré toutes les tentations du contraire, de reconnaître la supériorité de la démocratie, malgré tous ses défauts, sur ce qui n'est pas la démocratie. À ce propos, vous savez que le grand linguiste américain Chomsky est un de ceux qui se sont opposés, continuent de s'opposer le plus violemment, justement, à toutes ces dérives des médias aux États-Unis, donc dans les démocraties et en particulier aux États-Unis, qui aboutissent en effet à cette espèce de mensonge, de semi-mensonge, de propagande qui traverse tous les champs finalement de l'activité humaine, évidemment de la politique, mais pas seulement. Et Chomsky disait « La propagande est à la démocratie ce que la violence est à un État totalitaire. » Alors, bon, ça, c'est un petit peu curieux parce que, justement, dans un État totalitaire, eh bien, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire il y a la violence et la propagande. Et cette propagande, justement, elle est différente de la propagande qu'il y a dans la démocratie, tout simplement parce qu'il n'y a pas de contre-propagande. Au moins, l'avantage de la démocratie par rapport à cette situation-là, de semi-mensonge, si vous voulez, eh bien, c'est que à une propagande, on peut répondre par une autre propagande, en fait. Et c'est pourquoi, en certaines occasions, il m'est arrivé de défendre l'idée que la démocratie, se définissant comme étant fondée sur la séparation des pouvoirs, séparation du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, et bien que maintenant, il faut aussi qu'elle puisse se définir par ce qu'on peut appeler une séparation des trois pouvoirs de la parole. C'est-à-dire, on s'aperçoit qu'en réalité, la parole a du pouvoir. Et que cette parole, elle est dispersée entre trois grands pouvoirs, qui sont l'un, le pouvoir politique, à l'intérieur duquel on peut inclure, d'ailleurs, si on veut, le pouvoir économique aussi, et puis le pouvoir scientifique, qui est un véritable pouvoir aussi, et qui est un pouvoir de la parole, et le pouvoir médiatique. Et malheureusement, très souvent, ces trois pouvoirs-là, au lieu de se contrôler, de se contrebalancer l'un l'autre, sont en connivence. On pourrait aussi citer des exemples particulièrement spectaculaires. Et c'est la raison pour laquelle on peut, enfin, personnellement, je me rallie volontiers à une réponse que faisait Arthur Koestler à l'époque de la guerre froide, où on avait en face de nous un nouveau type de régime totalitaire qui était le régime soviétique, où la plupart des communistes qui soutenaient ce régime soviétique, eh bien, critiquaient les démocraties dites bourgeoises, donc démocratie occidentale, en leur disant, mais vous aussi, vous utilisez la propagande. C'est-à-dire, il n'y a pas que le régime communiste qui utilise la propagande. Et à cela, Koestler répondait, il disait, oui, en effet, mais nous, nous défendons des demi-vérités contre le mensonge total. Bon, je vous remercie.
C'était l'Agora des savoirs.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Des conférences ouvertes à tous.
La science est un discours.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM 93.9.
L'interrogation de l'être humain.
La création de l'univers. L'univers.
Le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Il y a beaucoup de choses en nous.
L'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
Que nous ignorons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
La science est un discours.
Avec quoi est-ce que nous pouvons en connaître? Sinon, avec notre propre connaissance.
L'Agora des savoirs. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec SORAMS, la maison des sciences de l'homme de Montpellier, Direct Montpellier Plus et Divergence FM.
Vous venez d'entendre Henri Atlan, enjeux éthiques, sociaux et politiques liés au développement de la biologie. Prochain rendez-vous de l'Agora des savoirs le mercredi 18 mai à 20h30, salle Rabelais, ou en direct sur Divergence FM, avec une conférence de Carole Crozet, les cellules souches et leurs enjeux éthiques, scientifiques et thérapeutiques.